Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la ceinture de vérité. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi par lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Éphésiens chapitre 6. Je vais vous parler d'un sujet aujourd'hui dont on ne parle pas beaucoup d'habitude, parce que ce n'est pas un sujet au départ qui exhorte beaucoup, mais c'est important. J'en parlais avec Morgane il n'y a pas très longtemps, elle dit, je ne savais pas cette histoire avec le diable et les démons, et je ne connaissais pas cela. Et on en parlait avec Landou, en Afrique, c'est très présent. C'est des choses, je ne dis pas du quotidien, mais il y a toutes sortes d'histoires. Alors, ça peut être effectivement des histoires curieuses, bizarres, de sortes de contes ou de légendes. Mais certains vivent ça dans leur famille, disent « oui, c'est arrivé à un tel ». Et c'est des choses qui font partie d'une réalité quotidienne du monde chrétien et du monde non chrétien. Alors que en France, c'est quelque chose de plus caché. Il y a maintenant 10 jours, nous étions à l'enterrement de notre sœur Blandine, et si cela peut se dire comme un mariage, c'était un bel enterrement. L'Esprit de notre Seigneur était présent et on pouvait à ce moment-là sentir sa puissance. Il n'y avait aucune place pour le mal. C'était comme si on était protégé. Et il y avait là des croyants et il y avait là des non-croyants, mais c'était un lieu qui était sanctifié par la présence de l'Esprit de Dieu. Et nous croyants, nous pouvions le sentir. L'Esprit de notre Seigneur était là, sa puissance était là, mais sa douceur était là. Quand je suis face à un cercueil, quand je suis face à la mort, face à un mort, je prends encore plus conscience de ma réalité spirituelle. Réalité qui est niée par toute une partie du monde occidental. C'est en effet par la mort que règne le péché, la corruption, le mal, le diable, nous dit l'apôtre Paul en Romains chapitre 5. La mort, elle est partout, bien que cachée chez nous, parce qu'elle dérange. Un corps mort, ça rappelle certes ma corruption, ça me rappelle mon péché, ça me rappelle le gâchis d'une vie qui est anéantie. Et pour le coup, Blandine, une jeune femme, mère de famille, l'absurdité. Mais bien plus que ça, il évoque pour moi la vie. Car c'est un moment privilégié où il y a la vérité terrestre qui est là, d'un mort, qui touche au travers d'un terrible drame, une vérité éternelle. La mort, elle manifeste la puissance du péché. Et ça, c'est une réalité spirituelle qui prend ici, dans la mort, sa forme la plus violente. et nous sommes plus que chair et sang. Nous sommes plus que chair et sang. La chair et le sang sont là, ne sont plus, mais on savait que Blandine était toujours vivante. On sait que nous sommes plus que chair et sang. Son corps était là, mais n'était plus vivant. Il était mort, mais dans notre cœur, elle était toujours vivante. Et elle est toujours vivante. Qu'est-ce qui est parti ? La médecine actuelle, elle est incapable de donner la moindre ébauche d'une réponse à cela. Qu'est-ce qui fait qu'un corps avant était vivant et que maintenant il est mort? On ne sait pas. On sait que le cœur s'arrête, on sait qu'il y a plein de mécanismes qu'on peut expliquer, mais on ne sait pas exactement qu'est-ce qui fait qu'à un moment il est vivant et qu'à un autre moment il est mort. On peut le constater, mais on ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce qui fait la différence? Ce qui a quitté notre corps de chair quand on meurt, c'est notre âme. Et accepter que nous ayons une âme, c'est accepter qu'il y a une autre vie, si je puis ainsi dire, une autre vie que celle que nous pouvons voir. Dans la création, nous ne sommes pas seuls. Il y a d'autres êtres vivants, créés, qui n'ont pas des formes visibles à l'œil nu, on va dire des formes physiques. Et la Bible nous parle d'êtres spirituels, elle nous parle des anges qui ne sont que des créatures de Dieu, pas que, qui sont des créatures de Dieu, mais qui ne sont pas toujours des anges, dans le sens figuré du terme. Il y a le diable et ses démons. Et ils ont été créés comme nous. Le texte que j'ai choisi de partager avec vous ce matin m'oblige à donner quelques explications là-dessus, et peut-être qu'on n'en parle pas. Je ne vais pas dire pas assez, parce que c'est pas quelque chose qui est très intéressant. On a bien d'autres choses beaucoup plus intéressantes dont on doit parler, mais on doit quand même en parler, comme on doit parler de la mort. Ça fait partie des choses, bien que ce soit la fin d'une vie, et que ce soit une manifestation du péché. Alors, je vais vous parler un petit peu de ces dominations, ces autorités, des princes de ce monde de ténèbres, des esprits méchants dans les lieux célestes contre lesquels nous sommes appelés à lutter. Avant qu'Adam et Ève ne se rendent coupables, le serpent était déjà là. Alors, il faut une certaine dose, je dirais, de naïveté pour imaginer que Moïse, probablement l'auteur de la Genèse, ait considéré le simple reptile comme l'auteur de la tentation. Bien sûr, le serpent, le diable, prend la forme du serpent. Et c'est une toute autre envergure qu'un simple reptile. Je vais m'aider, quelques temps et d'une petite étude que j'ai eue là-dessus, qui nous dit qui est le diable. C'est une créature de Dieu. Toutes choses ont été créées par Christ, dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, souveraineté, principauté et pouvoir. Colossiens 1,16. Les êtres démoniaques sont compris là-dedans. Et la même épître de Colossiens déclare que le Christ a dépouillé les principautés et les pouvoirs et en a triomphé par la croix. Au chapitre 2, verset 15. Le récit de la Genèse nous présente le serpent comme l'un des animaux que l'Éternel avait fait. Il est créature de Dieu. Et celui qui aujourd'hui est Satan n'a pas été créé mauvais au départ. Tout ce que Dieu avait fait était très bon. Comment le mal a-t-il pu germer dans le cœur de cet esprit céleste? Je ne vais pas répondre à ça, c'est un mystère complet. On ne sait pas. Il y a bien deux textes dans la Bible, dans Job et puis dans Ésaïe, qui nous parlent l'un du roi de Babylone qui est assimilé à un astre brillant, Lucifer, tombé du ciel, qui voulait se rendre semblable au Très-Haut. Et puis le roi de Tyr, qui est présenté comme un chérubin protecteur aux ailes déployées, placé sur la sainte montagne de Dieu, mettant le sceau à la perfection, intègre dans ses voies, depuis le jour où il fut créé, jusqu'à celui où l'iniquité s'est trouvée en lui, devenu arrogant à cause de sa beauté. Alors, dans le Nouveau Testament, on ne parle pas de ces deux textes comme les ramenant au diable. Mais quand même, on ne peut pas dire « c'est comme ça », mais quand même, ces textes sont troublants et peuvent nous donner un semblant d'explication, que c'est par son orgueil à vouloir être semblable à Dieu que le diable est tombé, que cet ange de lumière est tombé. Ce n'était pas ce qu'a fait notre Jésus. Lui, il s'est dépouillé. Il n'a pas cherché comme une gloire à arracher, à être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort de la croix. Le diable nous est décrit dans la Bible, dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau comme plein de fourberies, quelqu'un de rusé, qui est capable de desseins savamment conçus. Il est le maître du camouflage. Et le comble de l'astuce pour le diable, c'est de faire croire aux gens qu'il n'existe pas. Et on doit prendre garde aux avertissements de la parole divine et rester ferme dans la foi. Et ça va vous paraître bizarre, mais me dire que le diable et les démons existent, ça me conforte dans ma foi, parce que cette réalité-là, je la vois dans le monde d'aujourd'hui. Regardez avec les yeux de l'esprit et vous verrez, mais il ne faut pas regarder, on n'a même pas besoin de cela pour voir qu'il y a du mal dans ce monde et demander à quiconque, est-ce que le monde tourne bien? Vous aurez votre réponse, où que vous êtes, où vous soyez. Mais plus dangereuse encore, c'est une autre hérésie qui voit dans le diable un être se situant sur le même plan que Dieu. Le diable, il est limité dans plein de domaines. Il n'existe pas de toute éternité parce qu'il a été créé. Il dispose d'une puissance, certes considérable, sur les éléments de la nature. Il est capable, nous dit Job, de provoquer des tempêtes, des cataclysmes. Il est capable, sur notre santé, de provoquer la maladie. Il est capable de même provoquer la mort, parce que la mort lui appartient. Il est le prince de ce monde, mais il n'est pas le tout-puissant. Il ne peut pas aller au-delà des bornes que Dieu lui a fixées. Il ne peut pas aller dans ses déplacements et aller au proche du trône de Dieu sans que Dieu le lui ait permis. Il peut certes parcourir la terre et se promener, mais il ne peut pas, semble-t-il, être partout au même moment. Il ne sait pas tout et il ne connaissait certainement pas le dessein caché de Dieu dans la mort de Christ sur la croix à laquelle il a ardemment participé. Il est l'adversaire de Dieu et il est aussi l'adversaire des hommes, surtout l'adversaire des croyants. Et le livre de Job nous le présente comme accusant les croyants devant Dieu. Diabolos, l'accusateur. De toute façon, cela ne doit pas nous inquiéter. Le Seigneur ne risque pas de lui prêter une oreille complaisante parce que nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ, et c'est lui qui prévaut. Et le diable est accompagné, je suis désolé pour toute cette explication-là, mais c'est nécessaire de le faire une fois ou de temps en temps. Il est accompagné de démons, une partie des anges déchus qui sont tombés, et je ne vais pas rentrer dans... Mais on les voit dans l'Ancien Testament œuvrer et on les voit dans le Nouveau Testament. Vous savez, le diable tente Jésus dans le désert. C'est lui qui est là. Ce n'est pas une figure. On pourrait se dire, oui, mais le diable, en fait, finalement, non, le diable, il n'existe pas vraiment. C'est le mal qui est en nous. C'est une figuration du mal qui est en nous. Mais vous croyez que Jésus avait le mal en lui ? Non. C'est quelque chose d'extérieur à lui-même qui est venu tenter Jésus dans le désert. Et cette personne, cette chose, elle est personnifiée dans la personne du diable. Quand Jésus parle aux démoniaques, il parle à des démons qui portent un nom et il les appelle par leur nom. Il les nomme Légion. Il les nomme. C'est une réalité. Alors oui, il y a des gens qui peuvent être possédés par des esprits démoniaques. C'est une réalité de notre vie spirituelle. Oui, il y a des gens qui se sont laissés posséder par ces esprits démoniaques. C'est un mal contre lequel le Seigneur a lutté et il avait la puissance de délivrer les démons. Il a donné cette puissance aux disciples et l'a donné à l'Église. C'est pour cette raison que Paul encourage les Éphésiens à se fortifier dans le Seigneur et par sa force toute puissante. C'est un pléonasme, mais pour renforcer, par sa force toute puissante. Alors, on va revenir à Éphésiens. Paul a exposé en Éphésiens, dans le chapitre 5 et début du chapitre 6, il expose les difficultés relationnelles qu'on peut rencontrer dans l'Église, entre frères et sœurs, dans un couple, entre un homme et une femme, mais aussi entre des parents et des enfants, et aussi entre des serviteurs et des maîtres, entre un patron et ses ouvriers. Toutes ces relations humaines qui sont difficiles, qui sont de l'ordre de la chair et du sang. Alors, certes, nous avons aussi à lutter, on dit, mon plus grand ennemi, c'est comme une parole philosophique, mon plus grand ennemi, c'est moi-même. Je ne crois pas que ce soit, c'est certes, il y a un combat dans une corruption intérieure qu'on peut avoir, avec des pensées qu'on peut avoir, mais on a un ennemi qui est bien plus redoutable que nous-mêmes encore. Et qu'il ne faut pas ignorer. Et c'est à lui que Paul nous invite à prendre garde. On a été sauvés par grâce, on a été sauvés par le moyen de la foi. Et le but, notre salut, il est déjà gagné, il est déjà atteint. Mais quand on arrive et qu'on donne notre vie au Seigneur, c'est Neil Anderson, un auteur chrétien, qui dit « On n'arrive pas sur un bateau de croisière Costa, all-in, hein. On arrive sur un bateau de guerre. On rentre dans un combat. Parce que quand on devient chrétien, on devient l'adversaire du diable. On dit « Je renonce à Satan, je renonce au péché, je renonce à la corruption, je renonce à moi-même, je renonce à ma propre vie et je décide de mourir à cette vie-là pour endosser la vie du Christ. » Ça, c'est notre réalité de chrétien, un combat à mener. Pourquoi Paul dit Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Parce qu'il ne faut pas se tromper d'ennemi. Il ne faut surtout pas se tromper d'ennemi. Quand ça ne va pas bien au niveau relationnel entre frères et sœurs dans l'église ou dans le couple ou avec nos enfants ou les enfants avec les parents ou au travail, il ne faut pas se tromper d'ennemi. Mon ennemi, ce n'est pas mon frère ou ma sœur ou ma femme ou mon mari ou mes enfants ou mes parents ou mon patron ou mes ouvriers. Non. Mon ennemi, c'est le diable. C'est ça, cette réalité. C'est le diable et ses démons, c'est les puissances de ce monde de ténèbres. Voilà notre réel ennemi. Il ne faut pas se tromper d'adversaire. Calvin disait que la passion naturelle soulève contre les hommes en les considérant comme des flèches qui nous sont lancés par la main de Satan. Pendant que nous nous occupons à les repousser, nous nous exposons à tous ces coups. Alors nous luttons contre la chair et le sang, et cela sans succès, bien plus la lutte devient nuisible. Il nous faut attaquer directement l'ennemi. Voilà ce à quoi Paul nous encourage. Au jour de l'épreuve, afin que vous teniez ferme au jour de l'épreuve. Bien que toute la vie terrestre soit un combat, il y a quand même des moments qui sont pires que les autres. Comme celui de perdre une épouse et d'avoir son enfant en réanimation, comme le vit Marc-Henri en ce moment. Comment c'est possible de tenir ferme dans une telle épreuve et de pouvoir être un encouragement pour ses frères et sœurs? Comment c'est possible de rester debout dans un tel combat en revêtant l'armure, en revêtant la panoplie que Dieu nous offre? Paul va emprunter l'image du soldat romain. Et quand j'y pense, en fait, on est une bande de super-héros. Ben oui. C'est peut-être pour ça que ça... On est même les plus puissants qui soient. C'est quoi un super-héros? C'est quelqu'un qui a un corps qui est optimisé, comme ils disent dans les... Hein, optimisé, comme Captain America. Il a un corps optimisé. Et là, je parle de nos corps spirituels. Nous avons des corps optimisés, immortels, immortels, par le sang, par la vie du Christ, par la puissance du Saint-Esprit qui nous vivifie. Nous avons aussi le costume qui va avec. Vous savez que Iron Man, sans son armure, c'est pas grand-chose, quoi. Il se prend des coups, il s'envole. Hein, c'est pour se faire sourire un petit peu, mais c'est une réalité. Parfois, comme chrétien, on s'en va dans le combat, comme ça, on dit, ouais, je suis fort et tout ça, j'ai l'Esprit Saint. Et on arrive, on se prend des claques, et c'est terrible, on est terrassé par l'ennemi. Parce que on ne connaît pas l'ennemi. On ne sait pas quelle puissance il a. Mais il est bien plus puissant que nous. Mais bien moins puissant que Jésus-Christ. Et pour ça, Dieu nous a donné une armure. Et cette armure, on va la voir très brièvement, parce que sinon on pourrait y passer longtemps. Mais juste pour vous donner envie. Envie d'avoir le bouclier de Captain America. Sans son bouclier, c'est un homme vulnérable, très vulnérable. Mais avec son bouclier, il est très puissant. On ne peut pas laisser une arme de côté. Il nous faut la panoplie complète. Il nous faut la ceinture de vérité. Et ces choses-là, ce ne sont pas des reliques. C'est pas quelque chose qu'on va brandir devant le diable comme ça en disant « Tu vois, ça, c'est la croix de Jésus-Christ. Hein, j'y crois pas vraiment, mais il y a une puissance dans cette croix-là. » Non, parce que là, le diable, il va vous regarder, il va rigoler, il dit « La croix de Jésus-Christ, oui, mais toi, tu crois pas vraiment à cette croix-là. » C'est pas quelque chose qu'on va brandir comme cela, du tout, comme une relique qu'on pourrait avoir. Non, ce sont des armes qui viennent de notre cœur et qui vont toucher nos cœurs. La ceinture de vérité, c'était une ceinture qui aidait à ramener un vêtement ample au corps. Et de vérité, parce que c'est une sincérité, une droiture, quelqu'un qui a le mensonge en horreur, c'est une, et je reprends une pensée, j'ai bien aimé cette pensée, c'est la force qui recueille les pensées errantes. La lumière qui fait reconnaître l'ennemi sous ses déguisements. L'arme offensive qu'est l'épée est accrochée à la ceinture de vérité. Ensuite, la cuirasse de la justice qui met le corps à l'abri des coups mortels. Et c'est Jésus qui a été fait justice pour nous. Lui, il est mort à notre place. C'est notre armure. Revêtez-vous de Jésus-Christ, nous encourage l'apôtre Paul. Il ne méritait pas ce châtiment, mais il l'a pris pour nous qui le méritions. Et Paul nous encourage à revêtir Jésus-Christ, qui n'a pas cherché comme une proie arrachée à être égal avec Dieu, mais qui s'est humilié. La cuirasse, c'est un manteau d'humilité. De bonnes chaussures, c'est l'évangile de paix, la bonne nouvelle de paix, pour que nous puissions porter la parole. Et si nous avons cette parole en nous, elle ne nous laissera point oisifs, nous dit l'apôtre Paul. Si ces fruits de l'esprit qui sont dans la parole, s'ils sont en nous, cela ne nous laissera pas oisifs. Et puis le bouclier de la foi, pensez au Capitaine America. Ça, c'est que des armes défensives. C'est pour se protéger. Et ce bouclier, il nous protège contre les traits enflammés du malin, du diable, de Satan, de ses démons. Il nous protège. Et pour vous donner juste une image que j'ai déjà donnée ici, c'est une femme que j'ai entendue qui a écrit un bouquin, Marie connaît le titre, qui a perdu son enfant d'une maladie génétique, et son deuxième enfant est atteint de la même maladie. Et elle disait ceci: ma foi me permet d'éviter de me poser la question du pourquoi. Une question terrible auquel il n'y a pas de réponse, parce que cette question n'a pas raison d'être.
Je déteste cette question.
Eh bien, c'est pas une bonne question à se poser. Et ça se voit, Tarsis, que tu ne te la poses pas, cette question. Et puis, elle disait aussi cette deuxième chose qui m'a frappée. Quand la mer, vous avez une tempête sur la mer, au fond de la mer, c'est calme. Ma vie peut être dans une tempête apparente, mais ma foi me permet d'être en paix, au fond. De pouvoir vivre une joie au fond. Ça, c'est le bouclier de la foi qui triomphe des traits enflammés du malin. Puis le casque du salut, c'est lui qui nous dit que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, nous sommes déjà vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Ça nous permet, dans le combat, de lever la tête et, au cœur de la bataille, de voir, non pas le diable et les démons et tout ça, mais de voir approcher notre délivrance qui est Jésus-Christ. Maranatha. Il dit « Je viens, il est en chemin. » Et c'est dans ce combat-là où on le voit, Étienne, qui se fait lapider, lève les yeux au ciel. Il a revêtu ce casque, il lève le ciel, il sait où il va et il voit Dieu sur son trône et le Christ debout avant de mourir Et puis l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, et je vous laisse avec ces deux versets. Dans Jean 6, 63, c'est Jésus qui dit que cet esprit s'incarne dans la parole. Jean 6, 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et puis Hébreux 4, 12, que vous pourriez citer. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Et comment Jésus lutte contre le diable dans le désert ? Avec la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu. C'est notre arme offensive. Mais toutes ces armes, elles seraient inutiles sans la prière. Inutiles sans la prière. Il y a six armes, dans six ustensiles dans l'armure. Et la septième, qui rend le tout parfait, c'est la prière. Le chrétien lutte à genoux. J'avais, texte de clôture, le cantique que nous avons chanté, mais il y en a un autre, le 474. Je vais vous lire les paroles. Nous avons chanté le 478, « Debout, sainte cohorte ». Et dans le 474, c'est aussi un chant de victoire qui nous dit que le signal de la victoire déjà brille aux cieux. La couronne de la gloire paraît à nos yeux. « Je viens, combattez encore, dit Jésus à tous. » Et la réponse de l'Église, « Oui, mon Sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. » Que l'ennemi plein de rage redouble ses coups, nous ne perdons point courage, Christ est avec nous. Suivons, amis, la bannière du Sauveur en croix, et que notre armée entière se range à sa voix. Rude et longue est la mêlée, voici le secours. Dans nos mains, prenons l'épée, qui vainquit toujours. Je viens, combattez encore, dit Jésus à tous. Oui, mon Sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Je vous invite à prier avec moi.